Les séminaires du Collège de France.
Merci d'être resté pour la dernière séance du séminaire Philosophie du langage et de l'esprit. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Anna Marmodoro, qui est connue de ceux d'entre vous, notamment qui se spécialisent dans la philosophie ancienne, parce que c'est sa spécialité, philosophie ancienne et médiévale. Bien qu'une autre façon de la décrire serait de dire qu'elle elle travaille un peu à l'intersection de la philosophie ancienne, l'histoire de la philosophie ancienne et des idées contemporaines en philosophie analytique, notamment en métaphysique. Elle a travaillé à Oxford, elle a été professeure à Durham et tout récemment, elle vient de prendre une nouvelle position à l'université de Saint-Louis aux États-Unis. Et on lui doit beaucoup de livres sur des auteurs comme Platon, Aristote, Anaxagore et des livres plus généraux de métaphysique analytique. Donc on est très intéressé de l'écouter, nous parler de certains thèmes et vous verrez que le nom de Strawson apparaîtra dans son exposé. Anna, merci.
Merci beaucoup François. Je vais essayer de contribuer à l'EDIB sur les types de dossiers mentaux d'une perspective un peu différente et j'espère que ce sera utile pour vous. Donc je vais vous demander de considérer un objet issu de l'expérience quotidienne comme un chien, un arbre ou une personne. Nous parlons de ces objets comme d'individus particuliers ou de manière moins naturelle, comme de particuliers individuels. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que ces expressions ne sont ni métaphysiquement équivalentes, ni métaphysiquement innocentes. De plus, elles impliquent certaines hypothèses, dont la plus importante, qu'un individu particulier ou un particulier individuel est une seule et même chose. Par être un individu, j'entends être dans certains genres, tomber sous un sortal, posséder une description qualitative. Par être particulier, d'autre part, j'entends être le seul, être unique dans l'ontologie, alors que nous supposons tout qu'un individu particulier ou un particulier individuel est une seule et même chose, être individuel et être particulier sont deux manières d'être un, chacun fournissant un principe de nombrement différent pour ce que nous considérons comme une unité. Par exemple, Socrate est un parce qu'il tombe sur le sortal humain et il est un aussi parce qu'il est unique, cet unique objet-là que je peux montrer du doigt. La question que je souhaite poser est la suivante. Si un objet est à la fois particulier et individuel, qu'est-ce que si on fait un individu particulier? Qu'est-ce que si fait d'un objet une unité tout court? Même si sa question n'a pas été explicitement abordée en philosophie, de nombreux exemples issus de l'histoire récente de la philosophie analytique montrent que les philosophes ont implicitement distingué individualité et particularité, mais personne ne s'est préoccupé de ce qui maintient l'objet en question unifié, s'il est un individu et aussi un particulier. Certains philosophes ont privilégié l'approche qui correspond à l'expression particulier-individuel, tandis que d'autres ont opté pour l'approche qui correspond à l'expression individu particulier. La première approche, qui est d'aujourd'hui dominante, postule l'existence d'un X qui est P, c'est-à-dire on part de quelque chose d'unique et sans propriété en lui-même et on lui attribue une description qualitative. Par exemple, on pointe ce doigt à cette chose-là et ensuite l'identifie comme un chien, par exemple. J'appelle cette approche particulière à bord. L'autre approche postule que P est X, c'est-à-dire on part d'une description qualitative, un sortal, un concept, et on le particularise, le rendant unique. P Par exemple, on pense à ce qui est ancien, dans ce qui est, ce autre sien, en son faux, etc., sont des exemples particuliers. J'appelle cette approche individualité d'abord. Pour annoncer d'emblée ma position, je vais défendre la dernière approche, individualité d'abord, essayant également de répondre à la question de savoir ce que maintient un individu particulier en. Bien que l'approche que je défends puisse sembler familière et conforme à l'aristotélisme traditionnel, je dirais que oui, elle est aristotélicienne, mais seulement dans la mesure où la pensée d'Aristote est interprétée très différemment de la tradition selon laquelle les objets sont des composés holomorphiques de matière et de forme, où une prétendue quantité de matière dépourvue de propriétés particularise les gens auxquels appartient l'objet, ainsi que toutes les autres propriétés. Il n'y a rien qui existe sans propriété dans l'ontologie néo-aristotélicienne que je propose. Si l'approche individualité d'abord que je défends est fondée, et si on l'adopte l'ontologie que je propose, cela a des conséquences dans de nombreux domaines de la philosophie. Je donnerai ici un exemple en discutant de la question de savoir si la référence indexicale est mieux possible. En particulier ici, je pense à les types de dossiers mentaux que François a mentionné avant, pendant son leçon. Par référence indexicale ici, j'entends la référence à une chose en tant que particulière, indépendamment de toute description qualitative. Je considère ici la question autour de l'indexicalité comme particulièrement intéressante dans ce débat que François a mentionné à propos de quel type de dossiers mentaux il y a. Et je retourne à la question plavante. Mais la question ici est, se l'approche individualité d'abord ne laisse-t-elle pas de place à la référence indexicale, si on intende par là qu'on peut se référer à un objet sans propriété. Je soutiendrai que la référence indexicale, elle aussi, repose sur des propriétés, à savoir les pouvoirs causaux qui permettent l'interaction causale entre un agent et le monde, ou entre locuteur-penseur et le référent, c'est-à-dire l'objet auquel il se réfère. Toutefois, le locuteur n'a pas toujours conscience de cette relation causale et c'est pour cette raison que sa référence à l'objet peut être sans description qualitative. Passons maintenant à la distinction entre être individuel et être particulier. L'analyse métaphysique d'un objet en tant qu'un individu et particulier, qui constitue ici mon point de départ, fait écho à un débat sur les principes d'individuation des objets dans l'histoire récente de la philosophie analytique, les débats classiques entre David Wiggins et Michael Ayer, qui a débuté dans les années 1980. La raison pour laquelle je le mentionne ici est de montrer que ce problème n'est pas nouveau. Cependant, les penseurs qui se sont confrontés dans le passé l'ont résolu en cherchant soit l'approche particularité d'abord, soit l'approche individualité d'abord, sans se soucier des conséquences métaphysiques. Wiggins a développé une position aristotélicienne conceptualiste selon laquelle les entités physiques sont individualisées uniquement par des critères sortants, par exemple, être un être humain. En revanche, Ayer a défendu une position anticonceptualiste où les entités physiques sont individualisées par l'exercice des facultés cognitives prélinguistiques. Ayer ne donne pas d'exemple, mais on peut supposer que par faculté cognitive prélinguistique, il entende les facultés perceptives. Donc, dans le langage que j'emploie ainsi, Wiggins adopte l'approche individualité d'abord. À l'inverse, Ayer représente l'approche particularité d'abord. Et ici, il y a des citations à propos de Wiggins et ici à propos de Ayer. Donc, la différence est que pour Wiggins, c'est le sortal qui détermine que nous avons un individu particulier, un individu particulier avant nous. Et pour Heyer, c'est l'interaction causale entre nous et l'objet, sans le concept. Donc, Strozen ici. Si être individuel et être particulier peuvent être dissociés, l'un des deux est-il suffisant pour individuer les individus particuliers ou les particuliers individuels? Avant même le débat entre Wiggins et Heyer, toujours dans les milieux oxfordiens, Peter Strozen avait non seulement reconnu, à moins implicitement, une scission entre l'individualité et la particularité d'un objet, mais il avait aussi adopté l'approche « individualité d'abord », comme l'indique clairement le titre original de son ouvrage en anglais « Individuals ». Il écrit « A sort of universal supplies a principle for distinguishing and counting particulars which it collects ». Bien que Strozen parle d'individus particuliers, il ne donne qu'un seul principe d'individuation et de nombrement pour eux, le sorto. Par exemple, Socrate est un individu particulier, mais il est identifié et compté sur le sortal humain et rien d'autre. La question qui s'y pose est donc la suivante. Le sorto suffisent-ils pour la tâche? Être individuel est une manière d'être un, et être particulier est une autre manière d'être un. Lorsque nous comptons individual particulars, les particuliers individuels, comme le recommande Strozen, comptons-nous des individus ou des particuliers? Si nous ne comptons ni l'un ni l'autre séparément, mais les deux à la fois, alors que c'est quand un particulier individuel, qu'est-ce qui fait qu'il constitue une seule et même chose? À mon avis, bien que l'individualité et la particularité soient deux principes distincts d'individuation attribuant à un objet de manière différente d'être un, nous ne devons pas, et en réalité, nous ne pouvons pas choisir l'un plutôt que l'autre. Je soutiens que nous avons besoin de deux. Et il existe une manière métaphysique de rendre compte que l'objet est un en soi, tout court, en dépit du fait qu'il soit un particulier et un individu. Avant de présenter ma propre position, je souhaite d'abord écarter une alternative que je rejette. On pourrait penser que toute cette discussion relève de l'hylomorphisme, la doctrine aristotélicienne traditionnellement interprétée comme affirmant que les objets sont décomposés de matière et de forme. Selon cette lecture classique, une forme universelle ou sortale, par exemple être un être humain, est instanciée dans une quantité particulière de matière, chair et os, et ainsi particulariser de sorte que le résultat est un individu particulier tel Socrate. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation traditionnelle de l'hylomorphisme. Lorsque je distingue la particularité et l'individualité d'un objet, je ne me réfère pas à la division hylomorphique présumée des objets en deux entités, la matière et la forme, en particulier un individu, en quelque sorte collés ensemble en un seul. Par exemple, la chair et les os, plus la forme substantielle égale de l'être humain, égale Socrate, ou le marbre, plus la forme d'Hermès, égale la statue d'Hermès. Ensuite, je suggère que chaque entité à laquelle nous pouvons percer, qu'elle soit matérielle ou non, est un individu particulier. La matière, au sens de la chair et des os de Socrate et du marbre de la statue d'Hermès, n'est donc pas ce qui fait de quelque chose en particulier. Parmi les exemples de particuliers qui ne sont pas matériels, ils ne sont pas dans l'espace-temps, on peut citer la forme elle-même d'une statue, qui est un particulier immatériel, Il est une forme tridimensionnelle, un arrangement des composantes de la statue, une spécification fonctionnelle de son rôle dans la société, etc. Ainsi que la matière de la statue, qui est un particulier matériel, une quantité de tel ou tel poids, taille, forme, texture, etc. Ainsi, les individus particuliers ne divisent pas intérieurement en forme, AI individualité, et en matière, AI particularité, car même la forme et la matière sont chacune des individus particuliers. Comme j'ai déjà mentionné ci-dessous, le fait qu'un objet soit un individu particulier signifie que l'objet est un de deux manières différentes, en tant qu'un individu et en tant qu'un particulier. L'unité d'un individu particulier est dérivée et doit être justifiée métaphysiquement. Comment ? Dans ce qui suit, je m'appuie sur les ressources de la métaphysique ancienne pour prouver cette justification. Je soutiens que, premièrement, l'unicité d'un individu a ses origines ou racines philosophiques dans la métaphysique de Platon, à savoir les récits de Platon sur ce que nous appelons aujourd'hui l'émergence. Deuxièmement, l'unicité d'un particulier a ses origines philosophiques dans les récits d'Aristote sur l'instanciation, mais encore une fois, compris différemment de ce qu'il est traditionnellement compris. Et troisièmement, l'unicité d'un individu particulier est due à la métaphysique de la qualification d'Aristote. Donc, pour commencer, pourquoi un sortal est-il un? Ou autrement dit, d'où vient l'unicité d'un individu? Si chaque chose est une qua individu, c'est-à-dire en raison de sortal sous lequel elle tombe, qu'est-ce ce qui fait que le sortal lui-même est un étant? Prenons l'exemple de l'être tigre. Il implique plusieurs propriétés, comme l'être charnu, l'être poilu, l'être vivant, etc. Ces propriétés qui composent le sortal les pluralisent elles, et sinon, pourquoi? Je soutiens qu'un sortal comme tigre peut être complexe sans être multiple. Je lis Platon comme le premier à s'être penché sur ce problème et à en avoir esquissé une solution, ouvrant la voie qu'Aristote finira pour s'ouvrir lui aussi. L'idée clé est que, bien que certains sortaux puissent être simples, d'autres, la plupart en réalité, sont complexes et dérivent d'une composition d'un type particulier de nombreuses propriétés. Dans son dialogue intitulé « Les têtes », Platon inaugure une explication métaphysique de la manière dont une entité, entendue ici avec une généralité maximale, composée de parties, peut être sans parties et pourtant complexe, précisément parce qu'elle est faite de parties. Une hypothèse clé posée par Platon, que je partage et qui est cruciale pour la suite de l'argumentation, et que le nombre d'une chose est le nombre de ses parties, de sorte que ce qui a des parties est aussi multiple que ses parties, et ce qui est un n'a pas de parties. Ainsi, toute composition de plusieurs parties ou éléments en quelque chose qui est numériquement un doit être tel qu'il n'y a pas de parties dans ce qui est composé. Comment cela est-il possible? Selon Platon, ce type de composition exige que ce qui est composé, les parties, satisfassent deux conditions. Premièrement, qu'elles s'emboîtent et deuxièmement, qu'elles soient unifiées par une forme unique, c'est-à-dire sous un concept unique, en un tout sans partie. La deuxième condition est celle qui effectue la plupart du travail métaphysique. Platon postule, mais n'explique pas davantage, que lorsque les parties qui s'emboîtent sont unifiées par une forme unique, le tout qui en résulte est sans partie, et donc un, Pardon. Je considère que ce type spécial de composition introduit par Platon est équivalent à ce que nous appelons aujourd'hui l'émergence. Mais alors que l'émergence est généralement comprise de nos jours comme générant une novité qualitative, par exemple pour ceux qui pensent que le mental émerge du physique, dans ce cas, la novité est numérique. Quelque chose dans le sortal émerge d'une multiplicité de propriétés, tigre de toutes les propriétés pertinentes impliquées. Comment passer de la multitude de parties à l'unité du tout? Platon ne décrit pas les mécanismes métaphysiques par lesquels cela se produit. Il soutient, comme nous venons de le voir, que les parties d'une entité déterminent le nombre de cette entité. Il est à la fois intéressant et significatif qu'il s'agisse de tout que Platon nous dit sur les parties, qu'elles déterminent le nombre de l'entité dont elles sont parties. Cependant, Platon n'explique pas pourquoi. Pourquoi et comment la présence des parties détermine le nombre d'une chose? Ma propre compréhension et complément de la pensée de Platon sur ce point sont les suivants. Je pars du principe que chaque partie d'un tout est qualitativement et numériquement discrète. Et c'est la raison pour laquelle les parties d'une chose déterminent le nombre de ces choses. Par exemple, le nombre d'une classe qui contient 20 élèves est 20. Par conséquent, pour qu'un complexe composé de parties devienne sans parties et donc un, le caractère numérique et non qualitatif discret de chaque partie doit être éliminé. Comment? Aristote l'expliquerait. Mais nous ne pouvons pas considérer les détails ici pour raison de temps. Mais pourquoi cela nous concerne-t-il? Parce que les sortes qui font de chaque individu un qu'un individu doivent être même être un. Mais être un ne signifie pas être qualitativement simple. Il existe des sortes qui sont qualitativement complexes et pourtant un. Platon propose une explication embryonnaire de la manière dont cela est métaphysiquement possible par l'émergence d'un complexe en sa partie à partir de plusieurs parties. C'est qu'il faut retenir, pour nous, c'est que les sortes peuvent être qualitativement complexes, constitués de nombreuses propriétés et pourtant numériquement un. Ensuite, pourquoi un particulier est-il un? Ou autrement dit, d'où vient l'unicité d'un particulier? Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur l'unicité de ce qui fait d'une chose un individu, c'est-à-dire le sortal. Nous nous tournons maintenant vers ce qui fait d'une chose en particulier. Ma position est que ce qui fait d'un individu particulier, l'individu qu'il est, ce sont ses propriétés, son profil qualitatif, le sortal et toutes les autres propriétés. Et ce qui fait qu'il est le particulier qu'il y est, c'est que ses propriétés sont instanciées. Le sortal, par exemple, être un être humain, individualise un individu particulier, tel que Socrate. Mais c'est l'instanciation du sortal qui confère un nombre à ses instances et qui les particularise. Mais instanciation ne signifie pas être incarné dans une matière ou entrer dans une quelconque combinaison avec une entité primitivement particulière. Certaines interprétations des textes d'Aristote, notamment la métaphysique, livre 7, chapitre 3, pourraient être considérées comme fournissant une justification ontologique à ces positions que je rejette. Cependant, s'agit d'une lecture erronée d'Aristote à laquelle je me tourne maintenant très brièvement. Dans la métaphysique, livre 7, chapitre 3, Aristote engage une expérience de pensée qui consiste en une abstraction totale de toutes les propriétés d'une substance, par exemple Socrate, afin d'examiner s'il reste quelque chose après avoir abstrait toutes ses propriétés. Et il conclut que, car lorsque toutes les propriétés sont retirées, il ne reste manifestement rien d'autre que la matière. Les commentateurs ont interprété ces lignes comme donnant naissance à une conception de la matière comme un pur particulier, à savoir quelque chose qui est dépourvu de toute propriété, mais qui est primitivement et donc inexplicablement particulier. Depuis, ce particulier primitif est supposé se transmettre à la substance qu'elle soutient, rendant ainsi la substance particulière elle aussi. Ce ne peut pas être correct pour des raisons que je ne peux pas discuter ici maintenant. Mais ma position est qu'Aristote découvre dans la métaphysique le phénomène de l'instanciation des propriétés plutôt que de la prédication des propriétés sur une matière suggérant dépourvue de propriétés. De plus, l'instanciation doit être comprise comme l'occurrence d'une propriété, y compris les surtout, dans le monde actuel. Donc, c'est qu'est-ce qui reste lorsqu'on abstrait toutes les propriétés d'une substance? Pas une entité dans l'ontologie, la matière, à laquelle ces propriétés sont attachées. Ce qui reste est le monde dans lequel les propriétés sont instanciées, le monde actuel dans lequel ces abstractions ont lieu. C'est-à-dire, il n'existe aucune entité dans l'ontologie qui différencie, par exemple, Socrate dans le monde actuel de Socrate dans un monde possible. Et donc, dans l'aspect qui nous concerne, il y a une continuité entre les pensées d'Aristote et celles de Krip, même si je comprends que c'est étonnant à prima facie. Selon Kripke, possible worlds are stipulated, not discovered by telescopes. That is, in talking about what would have happened to Nixon in a certain counterfactual situation, i.e. possible world, we are talking about what would have happened to him, the same individual, without change in his ontological makeup. En d'autres termes, Nixon, dans le monde possible, est exactement le même individu qu'il y est dans le monde actuel. Ce qui est important ici est qu'il n'y a aucun changement dans la constitution ontologique de Nixon dans un monde possible dans lequel il perd l'élection. Et je soutiens qu'Aristote affirme exactement la même chose à propos du monde actuel. Il laisse intact la constitution ontologique de l'objet qu'il contient, car ce qui reste après l'abstraction de toutes les propriétés n'appartient ad aucune catégorie de l'être. Et ce qui est dépourvu de tout être catégoriel n'est pas une entité. Donc Aristote a été lu comme fournissant un prédigré à l'idée que dans la constitution des objets, il y a une entité qui elle-même dépourvue de tout type d'être catégoriel et donc totalement sans description. On pourrait penser que cette entité, si elle existait, fournirait l'ontologie de l'individuation anticonceptualiste des objets ou de la référence indexicale. Donc il serait ces choses qui on peut interagit causalement avec, sans aucun conseil ou sans aucune description qualitative. Donc, il serait la fondation d'un type de dossier mental selon le modèle indexical. Mais je voudrais dire que non, il n'y a pas aucune chose de ce type. Le point à retenir pour notre discussion actuelle est que ce qui fait d'un objet un particulier ne réside pas dans sa constitution. En fait, il ne s'agit d'aucune entité de tout. Jusqu'à présent, nous avons abordé la question de l'individualité comme une manière dont chaque objet est un grâce au sortal sur lequel il tombe, ainsi que la question de la particularité comme une autre manière dont chaque objet est un grâce à l'instanciation de son sortal. Mais nous n'avons pas encore examiné ce qui fait qu'un individu particulier soit un. Tournons-nous maintenant vers l'unité de l'objet lui-même. Ma solution repose sur trois idées clés. Donc, la première est que j'assume que la constitution des objets se réduit entièrement à leur propriété essentielle et aussi non essentielle, sans aucun autre type de constituant, tel que des particuliers sous-jacents sans propriété. Deuxième, la composition des propriétés d'un objet est telle que le tout résultant, l'objet, est un individu particulier grâce à l'absence de parties qualitatives dans sa constitution. Comme j'explique métaphysiquement, l'unification de toutes les propriétés d'un objet sera pour la prochaine fois ou pour la discussion. Mais la troisième point clé est que toutes les propriétés unifiées de l'objet sont instanciées dans le monde actuel. Donc, la combinaison de ces propositions nous permet d'expliquer en manière dérivative, métaphysiquement dérivative, comme c'est possible que chaque objet, comme Socrate, mais aussi une pomme ou un chêne, etc., est un individu particulier. Donc, un individu grâce à ses propriétés, en particulier dans l'instanciation de ses propriétés dans le monde actuel, sans aucune addition ontologique à la constitution de l'objet. Et donc la question qui reste ouverte à ce point est si c'est possible dans cette ontologie d'avoir des dossiers mentaux qui nous permettre de connecter avec l'objet dans le monde sans aucune référence à la description qualitative de l'objet, c'est-à-dire à les propriétés qui rendent l'objet un individu. Et cette question me semble intéressante, suivant la leçon que nous avons avouée par François aujourd'hui, parce que la question concerne les débats dans le projet de dans son projet de recherche actuel sur la question de savoir si nous pouvons nous référer à un objet à nous y approchant causalement sans faire appel à son profil qualitatif. François, comme nous avons vu avant, écrit dans le website où il décrit son projet. Building on the pioneering insights of Peter Strawson and John Perry, I describe non-descriptive thoughts about particulars, so-called singular thoughts, whether or not they're based on perception, as involving mental files whose reference does not depend on the property or category information to be found in the file, but on tracking relations to the objects which trigger the opening of the file. Donc, je comprends sa proposition faisant référence à la possibilité que nous avons des dossiers mentaux qui se connectent à l'objet sans référence aux propriétés des objets. Et je voudrais soulever la question si, d'après mon argumentation générale ci-dessous, il indique qu'il est impossible de se référer à quoi que soit d'une manière totalement dénouée de son profil qualitatif, indexicalement. Pourtant, on utilise la référence indexicale et on ne peut pas s'en passer. Donc, comment fonctionne-t-elle alors? Je suggère que l'on n'a pas besoin de particuliers dépourvus de propriétés pour donner une fondation ontologique à la référence indexicale. Et je rejette l'existence de particuliers dépourvus de propriétés tout court. Donc, j'ai déjà dit que je soutiens que chaque objet est constitué uniquement de propriétés. J'ajoute maintenant que les propriétés fondamentales sont puissance, ou causal power en anglais, et que la causalité dans le monde est toujours une relation entre des puissances partenaires. Cependant, même si on sait que la causalité opère entre des puissances, il n'insuit pas que l'on doit connaître ces puissances en interaction pour être conscient de la causalité. Par exemple, lorsque on voit un fruit ou une pomme mûrir sur une branche, on n'a pas besoin de connaître les puissances impliquées dans l'interaction de maturation pour savoir qu'elle est en train de mûrir. De même, si mon interlocuteur fait référence à l'homme qui boit un martini dans la salle, je n'ai pas besoin de connaître les capacités perceptives de mon interlocuteur et les puissances avec lesquelles il interagit dans la situation pour identifier son référent. En d'autres termes, même si toute référence est ontologiquement fondée sur des interactions causales et donc sur les propriétés ou puissances des objets dans le monde, la conscience de la référence peut être dépourvue de description, une conscience des puissances opérantes au niveau fondamental de la réalité. Je conclue donc que la référence indexicale est une question épistémologique plutôt qu'ontologique. Est-elle une conscience des objets dépourvue de toute description du référent? Et à ce point, je vous remercie pour l'attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.